Réapprendre à vivre ensemble et avec nos aînés, avec Anne Digou.
Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Désolée pour le petit changement de dernière minute. Donc on va passer 1h30 ensemble. Et on se propose pendant une petite heure... Ça va pour ma voix dans le micro? Je ne parle pas souvent dans les micros.
Oui, effectivement, ça va mieux là.
Voilà, donc une petite heure pour vous raconter un peu l'histoire de notre projet et ensuite une grosse demi-heure pour faire place à des échanges avec vous, des questions. Voilà. Alors par rapport à ces questions, on va vous distribuer des petits papiers de couleur. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête au cours de notre présentation, vous pouvez déjà les écrire, ça nous reviendra, ça permettra qu'on les classe, parce qu'il y en a peut-être qui se ressembleront, et on gagnera du temps dans les réponses qu'on pourra vous apporter. Alors, est-ce que tout le monde est bien installé ? Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire. J'ai eu la chance, enfant, d'avoir connu longtemps mes deux grands-mères et de pouvoir passer du temps avec elles, chez elles. Je me souviens très bien qu'elles avaient chacune une façon différente de me réveiller le matin. L'une de mes grand-mères ouvrait soudainement la porte et tout en se dirigeant rapidement vers la fenêtre pour en ouvrir les volets, elle criait joyeusement « C'est l'heure, ma chérie, il fait grand soleil !» Puis elle ressortait en me lançant « Dépêche-toi, ton chocolat va refroidir !» La lumière pénétrait violemment dans la chambre, me faisait tirer les draps au-dessus de ma tête et j'attendais que ma grand-mère me répète 3 ou 4 fois de me lever pour m'extirper du lit et ramper jusqu'à la cuisine où mon chocolat avait effectivement refroidi. L'autre de mes grand-mères frappait doucement à la porte, l'ouvrait, puis la refermait derrière elle. Venait s'asseoir sur le lit, comme elle savait que j'aimais, dans la pénombre, prononçait doucement mon prénom et me prenait dans ses bras. « Tu as bien dormi ? Ton chocolat t'attend, tu vas te régaler. » Un délicieux temps d'éternité, 30 à 40 secondes peut-être, et je n'avais plus qu'une hâte, qu'elle ouvre la fenêtre et que je vois son sourire, le soleil du dehors et la journée qui commençait. Puis de filer à la cuisine pour boire mon chocolat chaud. J'ai beaucoup aimé mes deux grands-mères et mes deux grands-mères m'ont beaucoup aimé. Mais je suis particulièrement reconnaissante à celle qui, s'ajustant à mes besoins de petite fille, m'a donné sans le savoir le goût d'en faire autant à l'égard de ceux dont je prendrai soin par la suite. Voilà, cette histoire, je la raconte à peu près sous la même forme aux stagiaires que j'accueille en formation bien-traitance dans les EHPAD dans lesquels j'interviens. Notamment pour leur faire comprendre que la bien-traitance, ça prend pas forcément plus de temps et que l'ajustement aux besoins est important. Pour la plupart d'entre nous, nos parents, nos grands-parents ont pris soin de nous quand on était petit et qu'on avait besoin de cette bienveillance. Et nous, comment prendrons-nous soin de nos aînés devenus dépendants ? Fin de la petite histoire.
Voilà, merci Anne pour cette jolie histoire. C'est chouette parce que je vois tu regardais pas toi, mais je vois les petits yeux qui scintillent dans le public et ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va vous présenter donc notre beau projet. C'est un projet d'habitat participatif avec une partie d'habitat inclusif. Donc notre habitat participatif a pour vocation du coup de nous permettre de construire un projet ensemble, nous les futurs habitants, et on souhaite que ce projet soit un projet en lien avec la nature, et on voudrait qu'il y ait aussi toute une vie partagée ensemble, festive, avec un esprit un petit peu guinguette, et qu'on puisse ouvrir ce lieu là sur l'extérieur, et on voudrait créer donc un cadre d'entraide entre nous tous, donc les futurs habitants, qu'ils soient des personnes dépendantes ou non, et qu'on construise donc tout ce projet là voilà, ensemble, avec des lieux partagés, une salle commune et un extérieur aussi. C'est très important pour nous, la notion du jardinage. Voilà, jardiner ensemble, avoir des lieux avec la beauté de la nature qui nous apaise. Donc voilà. Et donc, dans cet habitat participatif, on a une particularité. Donc, une partie des futurs habitants pourrait avoir donc une dépendance liée à leur âge. Donc, c'est ce que nous appellerons l'habitat inclusif. Voilà. Donc, que nous développerons plus en détail dans la présentation. C'était juste histoire de vous préciser un petit peu les choses. Voilà. Donc, à côté de moi, il y a Anne. Donc voilà, et Jean-Philippe qui sont des futurs habitants du projet.
Et puis Carole à notre droite qui est une future habitante du projet également.
Alors je reprends la parole pour vous raconter une autre histoire, cette fois celle de notre projet. Le projet est né sous une tonnelle dans un jardin un soir d'été. On est en juillet 2015 en Lorraine, le jardin est celui de ma maman. Atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis environ 2 ans et qui vit en EHPAD depuis un peu plus d'un an. Et je viens de la raccompagner dans cet EHPAD suite à une très belle journée passée ensemble. Et ce soir-là, je me rends compte que depuis un peu plus d'un an, je fais environ 900 km aller-retour toutes les 3 ou 4 semaines pour passer une petite journée avec elle. Et ce soir-là, sous la tonnelle, je me dis que quand même, il y a un truc qui ne tourne pas très rond et qu'il serait peut-être temps de penser à une autre façon de faire concernant l'accompagnement de nos aînés et les relations qu'on a envie d'entretenir avec nos parents devenus dépendants. Voilà, et je me mets à avoir la vision, à rêver en fait d'un lieu, d'un beau lieu à la campagne, dans une belle nature, un lieu de vie pour une poignée de personnes âgées, dépendantes ou pas, avec des personnes qui s'occuperaient d'elles avec bienveillance et qui prendraient soin de répondre au maximum, en tout cas d'entendre tous leurs besoins et leurs attentes. Et dans lequel ma maman, donc Michèle, pourrait finir le reste de sa vie dans ce lieu. C'est pas la première fois que j'ai ce genre de vision, mais ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, je me dis que finalement, plutôt que de me dire « Ah oui, mais les normes, ah oui, mais ceci, ah oui, mais comment tu vas faire, etc. » Je me dis « Mais je vais quand même essayer d'aller frapper aux portes, de chercher, de réfléchir et de voir » ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui serait à inventer dans ce cadre-là. Et donc pendant un peu plus de 6 mois, jusqu'en février 2016, je vais pas mal, pas mal dans mon coin, je suis un peu toute seule au début. Hein. J'en parle à des amis qui me disent tous « Oh là là, Anne, c'est un super beau projet, mais tu crois pas que tu rêves un peu trop ?» Voilà. Alors certes, je rêve, mais je sais que c'est possible. Ce que je ne sais pas encore, c'est comment c'est possible. Donc, je vais avancer avec ça. Et pendant 7-8 mois, regarder sur Internet, fouiller, écrire beaucoup. Et en tout cas, si je n'ai pas encore identifié à ce moment-là ce que ça pourrait être, je sais ce que ça ne sera pas. C'est-à-dire que ce ne sera pas une maison de retraite, même en plus petit, même en mieux, même en différent. Voilà, c'est autre chose et pour lequel je cherche le cadre. En février 2016, sur ce même salon, je vais faire la rencontre d'une personne très engagée dans le réseau de l'habitat participatif. Et c'est cette rencontre, finalement, qui va donner un cadre et permettre au rêve de devenir projet. Et donc, à partir de ce moment-là, on va monter un petit groupe de réflexion, tout petit, pour savoir comment on pourrait rendre possible ce projet. Donc, à ce moment-là, le projet est de créer un habitat participatif au sein duquel quelques personnes âgées, dépendantes, pourraient vivre à leur domicile jusqu'au bout. Je reviens à mes notes parce que l'air de rien, ça a évolué, mais c'est subtil la façon dont ça a évolué. Donc c'est pour être le plus clair possible auprès de vous. En juillet 2016, avec Jean-Philippe, donc mon époux, on se dit, mais finalement, nous aussi, on pourrait vivre dans ce lieu. Ça pourrait être pas seulement un habitat pour des personnes âgées, mais un habitat pour des personnes, un habitat intergénérationnel avec différentes générations.
avec potentiellement un parent dépendant de l'un de nous. On continue dans cette réflexion et en novembre 2016, on va écrire à 5 personnes, donc il y en a 3 qui sont plus là aujourd'hui, mais c'est aussi la vie des projets. On va écrire notre texte fondateur. Donc ce texte fondateur, comme son nom l'indique, donne les grands axes de notre projet et pas trop les critères, mais plutôt les valeurs sur lesquelles il repose. Et à ce moment-là, donc, le projet devient créer un lieu d'habitat et de vie pour des personnes de différentes générations et qui pourra accueillir ses habitants jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, on part sur un accueil de 12 à 15 foyers et apparaît aussi la notion d'activité, c'est-à-dire qu'on se dit finalement un habitat c'est bien, mais ce serait bien aussi s'il y avait des activités. Donc on pense au début à un petit café-resto associatif, pourquoi pas accueillir un maraîcher en bio, enfin voilà, Carole vous en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et la raison d'être de ce projet est maintenant très claire, il s'agit vraiment d'inviter à changer le regard posé sur la vieillesse, la dépendance et la fin de vie, et proposer très modestement une troisième voie entre l'établissement médico-social et l'isolement du domicile pour des personnes qui deviennent dépendantes. Pendant une année, on va avancer doucement mais sûrement en travaillant beaucoup sur le projet social et humain. Donc, beaucoup de gens qui venaient nous rejoindre à cette époque nous disaient « Et le juridique, et le financier, vous en êtes où ?» Et clairement, on n'en était pas du tout là. D'ailleurs, on commence seulement à en être là, à peine. Ce qui était important pour nous, c'était vraiment de savoir autour de quoi on se réunissait et qu'est-ce qu'on avait envie de créer ensemble. Donc, c'est la période pendant laquelle on va écrire un processus d'inclusion, comment on accueille les nouvelles personnes qui veulent rejoindre notre groupe, etc. Un cadre de travail et de gouvernance partagée, comment on travaille ensemble, comment on apprend à communiquer, à s'écouter, à valider des décisions. Une liste des critères aussi pour les futures visites de lieux. Et puis, on définit aussi ensemble le dispositif qui permettra d'accueillir les plus vulnérables jusqu'au bout. Parce que c'est une chose de se dire qu'ils pourront rester jusqu'au bout, c'en est une autre de se demander comment on va faire, bien évidemment. Et donc là, on pense que ça repose sur, comme disait hier Audrey, un tabouret à trois pieds, c'est-à-dire l'intervention de professionnels à domicile, comme on pourrait avoir, comme n'importe qui pourrait avoir à domicile une auxiliaire de vie qui vient pour l'aider à se lever, à faire sa toilette, etc. La coopération des proches de ces personnes âgées dépendantes, que ces proches vivent sur le lieu, dans leur maison à eux, ou pas loin, ou plus loin, mais veuillent venir régulièrement voir leurs proches et résider, par exemple, dans une chambre d'amis. Et puis, la troisième patte du tabouret, c'est la vigilance active et la solidarité bienveillante de tout le voisinage, donc de tout le reste du grand habitat participatif dont nous ferons partie. On va présenter le projet à plusieurs reprises dans le cadre des Cafés Oasis et on va commencer à visiter quelques lieux. Voilà. Aujourd'hui, on a toujours pas trouver le lieu parce que c'est voilà, il y a des critères importants quand même, on est beaucoup, enfin voilà, on y reviendra peut-être après. En tout cas, ces visites de lieux et cette progression nous amènent fin 2007 à nous rendre compte que on n'a pas tous la même temporalité 2017, merci. On a des temporalités différentes au sein du groupe de réflexion et on s'aperçoit à ce moment-là qu'il est vraiment important de pouvoir définir dans notre collectif des cercles, c'est-à-dire les personnes qui veulent être futures habitantes, d'autres personnes qui nous suivent de près en essayant de proposer des ressources qu'elles peuvent apporter, nous aider, et d'autres personnes qui nous suivent de loin parce qu'elles sont intéressées. Il est vrai qu'à l'époque, on est juste de mémoire 3 personnes seulement dans le collectif qui fait 10-12 personnes à vouloir être futures habitants à cette époque-là. Et de fait, quand on visite les lieux, on se dit, mais si jamais on tombe sur le lieu de nos rêves, eh ben, comment on va faire pour l'acheter la semaine prochaine puisque on n'a pas encore un collectif d'habitants suffisamment étoffé. Donc ça va être une période un petit peu un petit peu instable dans le collectif. Merci Claire.
En tout cas, on va demander, nous qui sommes futurs habitants, donc une personne qui n'est pas là, Marie-Claire, Jean-Philippe, moi, mais voilà, il faut qu'on sache comment on avance maintenant, quoi, parce qu'on est un petit peu coincé. Donc certaines personnes s'éloignent, d'autres arrivent, et c'est aussi le moment que choisit ma maman, Michèle, pour décéder. Donc elle nous quitte le 15 décembre 2017, au moment où le collectif, je sais pas qui bat de l'aile, c'est que voilà, ils cherchent quoi, ils cherchent comment continuer. C'est aussi une période de fatigue pour les personnes fondatrices du projet, et voilà, bon, c'est une période d'épreuve, comme il y en a souvent dans la vie. Et puis très vite, en fait, on se rend compte que ce projet, même si ma maman n'est plus là, il garde tout son sens et sa pertinence pour toutes les personnes intéressées par la raison d'être de ce projet et l'envie de vivre dans un habitat participatif avec cette dimension. Et puis aussi pour les plus âgés d'entre nous qui anticipons notre vieillesse et qui nous disons, mais finalement, non, nous, on veut vraiment construire ce lieu. Donc on repart de plus belle. Participation aux rencontres nationales de l'habitat participatif en juillet 2018. Et puis surtout, quelque chose de très important pour nous, c'est qu'au mois de juillet aussi, on va répondre à un appel à projet lancé par une association qui s'appelle Famille Solidaire, dont on vous dira quelques mots après, et qui propose à des binômes aidants-aidés de candidater pour proposer leur projet et remporter voilà, cet appel à projet. Donc nous candidatons au mois de juillet, et le 1er octobre on apprend qu'on fait partie des 10 lauréats sélectionnés pour cet appel à projet. C'est un moment un peu euphorique. J'avoue qu'à la soirée de cérémonie de remise des prix à Paris, donc début octobre, on a rencontré à la fois l'équipe de Famille Solidaire, compétent, bienveillant et vraiment prêt à nous accompagner sur notre projet. On a rencontré aussi 9 autres porteurs de projets, avec beaucoup de beaux projets. Voilà. Et depuis, donc Famille Solidaire, toute l'équipe de Famille Solidaire est venue nous accompagner déjà pour une journée diagnostic projet. On a eu 3 jours de formation en Touraine avec tous les autres porteurs de projets sur les dimensions... les différents montages juridiques possibles, les spécificités de l'habitat inclusif, on va vous redire ce que c'est que ce terme, la domotique, l'environnement, l'architecture, enfin voilà. Donc on a... Voilà. Et donc depuis, on continue avec notre collectif qui fait maintenant bientôt, qui comprend 9 personnes avec 7 foyers de futurs habitants. Donc ça y est, c'est reparti. Et ben voilà, on continue de construire, de parler de notre projet à des collectivités pour essayer de trouver un lieu rapidement, parce que maintenant on sait que ça peut arriver vite. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'histoire, parce qu'on arrive un peu au jour d'aujourd'hui, et je vais repasser la parole à Carole, qui peut peut-être nous dire 2 mots concernant cette une des spécificités de notre beau projet par rapport à ces personnes âgées dépendantes.
Ok. Alors, en fait, je voulais aussi vous raconter pourquoi j'ai décidé de participer à ce projet, en fait. Comment ça se fait que j'ai rencontré Jean-Paul, Anne et le reste du collectif. En fait, moi, je fais partie du mouvement de l'habitat participatif depuis pas mal d'années, parce que je trouve ça vraiment chouette, les projets d'habitat participatif. Et je suis arrivée à un moment de ma vie où j'avais envie de m'impliquer dans un projet. Et en parallèle de ça, je vivais quelque chose de particulier dans ma vie, comme ça arrive à beaucoup de gens. Mais voilà, ma grand-mère est en EHPAD depuis 2 ans. Et je trouve ça un peu désarmant de la voir dans cette situation. Elle avait toujours dit qu'elle voulait pas se retrouver à perdre la tête et à être en EHPAD. Et finalement, elle a pas le choix. C'est sa vie qui se trouve dans cette situation. Et moi-même et mes parents, on est là à essayer de lui rendre la vie la plus sympathique possible. Mais en EHPAD, malgré les équipes qui sont formidables, enfin c'est l'occasion aussi de le dire, c'est pas foufou quoi, la vie en EHPAD. Donc du coup, je me disais qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est sur ces entrefaites où je me disais comment on peut faire pour rendre la vie plus agréable pour nos aînés qu'aux rencontres nationales de l'habitat participatif où je me rends à chaque fois. Mais je rencontre Anne qui me montre une jolie vidéo vraiment pleine de verdure, pleine de sourires. Et du coup, ça me donne une réponse. Je me dis, tiens, on peut faire comme ça, on peut associer et l'habitat participatif, quelque chose que je trouve tellement chouette de faire des projets ensemble, de créer des cadres d'entraide, et cette réponse à cette question de comment on peut aider nos aînés. Donc moi, aujourd'hui c'est ma grand-mère, mais un jour ce sera mes grands-parents qui seront sans doute dans le besoin d'être soutenus par rapport à leur âge, quoi. Donc voilà, j'ai décidé d'écrire un petit mail après la rencontre avec Anne à notre beau projet pour demander de les rencontrer et réfléchir à intégrer le collectif en tant que future habitante. Et donc me voilà aujourd'hui, et je suis vraiment contente de m'impliquer dans ce projet et j'espère qu'on va bien avancer tous ensemble, et puis j'espère aussi qu'il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans le projet aussi parce qu'ils vivent aussi peut-être des choses comme moi, et qu'on pourra partager ces situations ensemble et s'entraider. Donc effectivement, on voulait aussi un petit peu vous présenter ces notions d'habitat participatif et d'habitat inclusif, et qu'est-ce que notre beau projet aujourd'hui. Donc notre beau projet, en fait, c'est un habitat participatif qui va être comment, dans le milieu rural, puisqu'on veut un lien fort avec la nature. Et l'idée d'un projet d'habitat participatif en milieu rural, pour nous en tout cas, c'est que du coup il y ait l'approche de l'habitat, mais également d'inclure certaines activités professionnelles, puisque il y a certaines personnes qui ont des activités d'indépendantes, et c'est aussi la question d'éviter l'effet pendulaire quand on vit en milieu rural. Donc du coup il y a certaines personnes qui pourraient du coup avoir leur activité professionnelle à l'intérieur de l'habitat. Donc on a évoqué l'idée d'un café associatif ou d'un maraîchage bio, en plus du coup des gens qui sont déjà présents dans le projet et qui ont des activités d'indépendants. Voilà, donc dans notre beau projet, il y a vraiment une volonté aussi très forte d'un groupe intergénérationnel pour justement ce partage entre tous les âges, des différentes envies, des différentes dynamiques et de cette entraide. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est recherché. Et donc nous participons dès à présent, comme vous l'avez vu avec l'histoire qui est jusqu'à aujourd'hui qu'a expliqué Anne. Nous participons à toutes les étapes de la construction de ce projet. Donc la réflexion, qu'est-ce que notre beau projet, le montage juridique qu'on est en train de commencer à appréhender, et la recherche du lieu, et puis la conception architecturale qu'il y aura dans le projet. Voilà, donc on peut quand même vous dire quelques mots du cadre législatif, le contexte dans lequel on construit ce projet. Donc en fait, l'habitat participatif le mouvement de l'habitat participatif en fait a permis l'émergence d'une définition de l'habitat participatif dans la loi ALUR, donc qui a été définie en 2014. Donc la définition de l'habitat participatif dans la loi, c'est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant, avec des personnes morales afin de participer à la définition et à la conception de leur logement et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis. Voilà, donc ça c'était pour la définition de l'habitat participatif. Et peut-être Jean-Philippe, tu veux expliquer la partie plus de l'habitat inclusif par rapport à...
Oui, tout à fait. Donc comme vous l'a dit Carole, la loi ALUR a permis de donner un cadre très précis à l'habitat participatif. Mais parallèlement, alors c'était en 2014, et parallèlement à ça... On voyait arriver dans la société des habitats qu'on n'appelait pas encore des habitats inclusifs, mais plutôt des habitats partagés et accompagnés. On n'avait pas encore trouvé le terme d'habitat inclusif. Et puis, ces habitats n'avaient pas vraiment de cadre juridique. On ne savait pas trop bien où les mettre. Et en fait, en fin novembre 2018, donc c'est extrêmement récent, est sortie la loi Élan. Et dans la loi Élan, qui contient énormément d'articles qui concernent d'autres domaines, l'habitat inclusif a été précisé. Et la loi Élan a été transcrite dans le code de l'habitation, de la construction et de l'habitation, et aussi dans le code de l'action sociale et des familles. C'est un code avec lequel je suis pas très à l'aise. Et donc, dans la partie code de l'action sociale et des familles, l'habitat inclusif a été défini. Alors, je vous lis la définition, c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'on entend par l'habitat inclusif. L'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix à titre de résidence principale, donc on voit qu'on est sur le champ de l'habitat, d'un mode d'habitation regroupé entre elles ou avec d'autres personnes. Et l'habitat inclusif est assorti d'un projet de vie sociale et partagé et peut être partiellement financé par la mise en place d'un forfait pour l'aspect animation. C'est ce qu'on appelle en raccourci le forfait inclusif. Et puis le code de la construction et de l'habitation, lui, il définit les modalités de colocation des habitants au sein de l'habitat inclusif. Donc là, on voit qu'on est cadré à la fois par sur l'aspect social ou médico-social et sur l'aspect habitat. Voilà.
Oui, bon, ça c'était la partie un peu législative qui fait partie du cadre dans lequel on navigue en ce moment. Mais en fait, on voudrait vous parler des habitants. Et de la façon dont on imagine le lien entre les uns et les autres. Donc, en fait, il y a cette notion dont on vous parle d'habitat participatif et d'habitat inclusif, mais en tout cas, toutes les personnes qui seront à l'intérieur et vivront à l'intérieur de notre beau projet, ce seront des personnes qui ont fait le choix de vivre dans un habitat regroupé ensemble. Voilà. Et donc, sur cette cellule qu'on identifie par l'habitat participatif, ce sont donc des personnes de tous âges. Et certaines d'entre elles pourront avoir donc un proche qui a besoin d'aide et qui sera donc accueilli dans la partie habitat inclusif. Donc l'idée pour ces personnes-là, c'est du coup de se sentir moins seules par rapport à cette position d'aidant qu'elles ont et de pouvoir trouver des personnes qui les comprennent et qui peuvent les relayer. Et puis, du coup, également, compte tenu du cadre que nous souhaitons créer avec cette nature ressourçante, de pouvoir, être en relation d'aide, mais également d'avoir un cadre très proche qui permet de se ressourcer et de porter cette envie-là, d'aider. Et donc, au niveau de l'habitat inclusif, donc, ce sont donc des personnes âgées vulnérables dont le degré de dépendance engendre des besoins spécifiques d'accueil et d'accompagnement. Donc, à ce titre-là, elles sont accompagnées par des professionnels, des auxiliaires de vie pour les actes essentiels de la vie quotidienne comme la toilette, des actes médicaux qui sont exécutés par des personnes en libéral, voilà. Et on imagine donc un professionnel qui assure la coordination de la vie entre ces différentes personnes qui interviendront pour les personnes aidées. Et les aidants, tout comme les autres habitants, viennent et veillent sur leurs voisins, donc qui sont des personnes plus fragiles, chacun en donnant ce qu'il veut de son temps et de son énergie selon un cadre évolutif, bien sûr, puisque la dépendance a une caractéristique évolutive, selon un cadre évolutif que l'on élaborera ensemble et que l'on fera évoluer ensemble. Voilà. Donc ce qui nous semble important, c'est de bien expliquer que ce projet social et humain, en fait, il est construit par tous les habitants, hein, les habitants de l'habitat participatif et de l'habitat inclusif. Donc, nous allons concevoir tous ensemble l'architecture du lieu et également comment le lieu va fonctionner au quotidien. Et on souhaite réfléchir sur ces passerelles-là entre l'habitat participatif et l'habitat inclusif. Voilà, c'est-à-dire une personne âgée dépendante qui a envie de venir passer un moment dans les lieux communs de l'habitat participatif et une personne de l'habitat participatif qui va passer du temps dans les lieux communs de l'habitat inclusif qui ont peut-être des caractéristiques plus particulières par rapport aux caractéristiques de dépendance des personnes habitant dans le lieu. Voilà, donc l'idée, c'est qu'il y a des moments partagés dans l'ensemble du lieu.
Oui, voilà, c'est ça. C'est cette notion, en fait, de passerelle et de porosité entre les lieux dont vient de parler Carole. On n'est pas du tout sur des projets d'habitat cloisonné. L'habitat participatif avec les personnes actives et correctes, entre guillemets. Et puis, les personnes âgées dépendantes cloisonnées dans un habitat à l'autre côté, c'est vraiment... comment on établit des ponts entre nous, même si les besoins des uns ne sont pas tout à fait les besoins des autres. En fait, le projet, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, est vraiment né du désir de trouver une solution pour l'accueil et l'accompagnement d'une personne dépendante dans de bonnes conditions. Si je caricature beaucoup, je vais être un peu dans la caricature là, avant, en tout cas, c'est mon expérience de petite fille. J'ai perdu mon père très jeune et ma mère est repartie travailler un peu loin. Mes grands-parents nous ont élevés, mon frère et moi, à mi-temps, on va dire. Donc on vivait la moitié du temps chez nos grands-parents et au-dessus, il y avait notre arrière-grand-mère. Donc mes grands-parents se sont occupés, enfin ma grand-mère surtout, s'est occupée de sa maman pendant longtemps. Et pour moi, en tant que petite fille, je trouvais ça juste génial. J'en ai d'excellents souvenirs. Elle est décédée, j'avais 10 ans, donc je l'ai bien connue. En revanche, je pense que pour sa fille, donc ma grand-mère, c'était pas si facile, rose et léger. Et bon, mon arrière-grand-mère est quand même décédée en EHPAD parce qu'il y a eu un moment où ma grand-mère, donc sa fille, n'en pouvait plus. Donc il y avait avant un peu cette logique de prendre coûte que coûte nos parents dépendants avec nous. Je vous dis, hein, je généralise et je caricature, mais quitte à oublier notre couple, nos loisirs, enfin voilà, de mettre de côté plein de choses importantes pour se consacrer à l'accompagnement de son parent dépendant. Et puis il y a eu l'établissement médico-social qui nous a enfin soulagés. Et c'est vrai que faut pas. D'abord, je suis formatrice en EHPAD et je jette la pierre à personne. Voilà, il y a ce qui existe aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui existe? Donc, qui a accueilli des personnes âgées dépendantes. Et puis, ben, je ne vais pas vous faire de discours sur les EHPAD. On sait ce qu'on sait aujourd'hui. Les EHPAD sont pleins de professionnels, je vous assure, qui, à 98%, font de leur mieux et donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour accompagner au mieux les personnes qui leur sont confiées. Malheureusement, il y a un sous-effectif, voilà, les besoins humains sont insuffisants. Et donc on observe une déshumanisation de l'accompagnement des personnes âgées. Et puis, de fait, ces établissements ne répondent pas totalement aux besoins et aux attentes des personnes qui sont accueillies et de leurs proches. Donc, en tout cas, à chaque fois se pose la question du proche qui cherche une solution adaptée aux besoins de son parent dépendant. Et notre beau projet se lance le défi et expérimente une voie pour prévenir l'isolement des aidants et l'épuisement qui s'ensuit, maintenir nos aidés dans un environnement qui leur permette de jouir de l'intimité d'un chez eux, c'est-à-dire que notre habitat inclusif, ce sera ces personnes âgées dépendantes seront chez elles, ne seront pas hébergées, elles habiteront leur lieu de vie, tout en recevant l'aide adaptée à leurs besoins et attentes et en se voyant accorder la liberté d'écrire jusqu'au bout leur vie comme elles ont envie de l'écrire. voilà, faire une activité, pas faire une activité, aller cueillir du persil ou pas, aller au marché ou pas, se manger à 19h et pas à 17h30, bon, etc., etc. Et autour d'elle s'organise un collectif d'habitants en pleine santé, nous, et vous peut-être. Et ce collectif d'habitants, en plus de vivre l'aventure d'un habitat participatif avec tout ce que ça engendre de joie et de créativité et de richesse d'être ensemble, souhaitent tous vivre l'habitat d'un vivre l'aventure d'un habitat participatif et solidaire, prenant en compte le vieillissement de chacun et le maintien à domicile jusqu'au bout. Donner un tout petit peu ou beaucoup de leur temps, ça dépend des gens, et de leur créativité pour veiller sur leurs voisins les plus fragiles et compléter de cette manière le travail des professionnels qui les accompagnent au quotidien. Donc, et faire vivre dans ce lieu des projets qui favorisent l'ouverture, la rencontre, le partage, nourrissent le lien social, notamment par l'utilisation judicieuse des espaces communs et de tout ce qu'on va créer ensemble. Donc on est bien d'accord. Les personnes de l'habitat participatif ne sont pas là pour faire la toilette ou s'occuper, prendre en charge, ni même prendre en soin les personnes, les quelques personnes âgées dépendantes qui vivront aussi dans ce lieu. Ça, c'est le travail des professionnels. Mais c'est, on n'a rien inventé en fait. Hein. C'est ce qui se passait à la campagne dans des villages où. Eh ben, je sais pas, Suzanne avait 97 ans et voulait absolument rester chez elle. Et autour d'elle, il y avait des voisins plus jeunes qui regardaient si... Enfin, il y en a encore qui regardent, hein, heureusement. Si les volets étaient bien ouverts le matin et qu'ils lui portaient un bol de soupe parce qu'ils en avaient fait largement et puis qu'ils l'emmenaient, qu'ils l'invitaient. Enfin, voilà, c'est une vie de solidarité, de voisinage solidaire et bienveillant. Voilà, je vais repasser la parole à Jean-Philippe. En tout cas, c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on a candidaté à l'appel à projet, donc dont je vous parlais au mois de juillet. Cet appel à projet s'appelle Lâche pas, qui veut dire
les aidants, concepteurs d'habitat partagé et accompagné. Alors, Anne vous en a déjà parlé un petit peu, donc je ne vais pas trop insister, mais on est lauréat parmi... Donc c'est un projet national. Il y a eu à peu près 60 ou 70 candidats, je crois. Et sur l'ensemble de la France, il y a eu 10 lauréats. Donc on est un des projets lauréats. On est accompagné. Donc on a, qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné un accompagnement sur environ 2 ans. Avec des journées de formation et puis des journées d'accompagnement à raison à peu près d'une journée par mois. À l'issue de la période d'accompagnement, ou en tout cas à l'issue de la première année, donc à la fin de cette année 2019, il y aura 3 lauréats finaux qui bénéficieront d'un financement avec une enveloppe de 1 million d'euros à se partager à peu près entre les 3 lauréats. Donc on aimerait bien faire partie des lauréats finaux, parce que bien sûr ça nous amènerait du financement, qui est quand même un point important de l'histoire. Famille solidaire, bon, on vous a dit que c'était une association, je vais juste vous dire un tout petit mot sur Famille solidaire. C'est une association fondée par des aidants familiaux il y a 5 ans, qui s'occupe de valoriser l'expertise des aidants familiaux en faveur du développement de projets d'habitat inclusif. Donc c'est un groupe associatif composé d'une association, d'une foncière, ils ont aussi une partie activité immobilière, d'un fonds de dotation et d'un centre d'expertise. Et donc leur vision commune, c'est d'offrir la possibilité aux personnes fragilisées par l'âge et ou le handicap, parce qu'ils travaillent sur le champ du grand âge et sur le champ du handicap, de vivre avec et comme les autres dans un habitat inclusif. Et comme vous le voyez, on a déjà bien travaillé sur le projet, parce que ça fait pratiquement 3 ans maintenant qu'on avance. Et on a encore quelques belles récompenses, et il nous reste encore un peu de travail. Et c'est Carole va vous présenter ce qui est en chantier aujourd'hui.
Oui. Alors oui, moi je les ai rejoints avec tout mon enthousiasme, comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, pour voilà les aider et puis intégrer ce projet quand il sera rentré dans les lieux. Donc Aujourd'hui, on a besoin d'agrandir le groupe, besoin et envie aussi de partager cette construction de ce projet et puis de trouver les personnes qui souhaitent vivre ce projet avec nous. Donc, on aimerait bien qu'il y ait des personnes qui soient touchées par cette dimension-là, qui nous rejoignent de tout âge, voilà, parce que ça nous touche tous, puisque finalement, c'est une question de société, quoi. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui veulent s'intéresser au projet pour qu'on fasse connaissance. Puis bon, on a aussi la partie que j'ai évoquée tout à l'heure, la définition de la relation d'entraide entre les aidants et les aidés et entre aidants aussi. Ce cadre à élaborer, que nous commençons de travailler, de réfléchir, sur lequel nous partageons. On va bientôt faire un week-end d'ailleurs tous ensemble pour travailler ces sujets. Et également, donc, on cherche un lieu, comme tout à l'heure Anne l'a évoqué. Donc, on a comme critère pour ce lieu de critère de recherche, donc un rayon de 100 km maxi par rapport à Lyon, ou une heure et demie par rapport à Lyon, une heure et demie de route, avec une accessibilité par transport en commun, avec une gare, voilà. Donc bien sûr, on cherche un milieu rural, comme on l'a dit, mais bon, connecté à une ville pour que du coup les personnes puissent travailler, avoir des activités. On aimerait bien un terrain nu, constructible et viabilisé, ou avec un bâtiment existant, avec des possibilités d'extension pour qu'on puisse du coup bien créer les parties adaptées aux besoins des personnes. Avec une surface minimale de la parcelle de 2 à 4 hectares. Et voilà, on aimerait bien une configuration d'un lieu plutôt contenant pour que voilà, il y ait un accès plutôt facile à tous les lieux de toutes les parties de notre habitat, sans être enfermé dans un bâti trop muré, ouais, voilà, c'est ça. On a besoin de regarder à l'extérieur. Voilà un petit peu ce qu'on recherche comme lieu aujourd'hui. Et donc, on a aussi un travail à faire sur la définition du projet architectural. Donc, même avant d'avoir trouvé le lieu, on a besoin de réfléchir et de se cultiver sur toute la dimension particulière de notre projet, avec les caractéristiques d'usage et d'évolutivité par rapport à ce public de personnes vieillissantes et dépendantes. Puis bon, également, ce que nous avons évoqué et qui passionne tout le monde, c'est la réalisation du montage juridique et financier, un très particulier dans notre cas. Et voilà, il faut qu'on se prépare donc à l'acquisition du lieu et au fonctionnement du lieu aussi, puisque dans notre cadre, les personnes qui seront dans le lieu pourront avoir droit à des aides qui donc donnera des caractéristiques particulières pour le fonctionnement de notre lieu. Donc il y a plein de choses à découvrir et c'est d'ailleurs très intéressant. Et puis on pourra donc vous partager si ça vous intéresse ces caractéristiques. Donc voilà, on est heureux de vous avoir présenté notre beau projet qui nous tient à cœur. Et maintenant on est disponible pour échanger avec vous. Donc on vous a laissé des petits papiers.
Voilà, si vous avez des questions, des remarques, ouais, il y a des papiers là-bas. Des remarques.
Avec ou sans papier, ça marche. En tous les cas, voilà.
Laissez parler les petits papiers.
Donc la finalité est sympathique. C'est vous qui aviez.
Bonjour, j'arrive pas à comprendre la différence entre inclusif et participatif. Participatif, c'est vivre ensemble, et inclusif, ça veut dire accueillir des gens en situation de vieillissement et dépendant, c'est ça ?
Bah ouais, en fait, elle a compris.
Ouais, je crois que vous avez compris. En fait, habitat inclusif, c'est un terme tout neuf qui a été pondu dans le cadre législatif, là, mais il y a très peu de temps, c'est tout récent. On a de la chance parce qu'on arrive au moment où tout s'ouvre. Tout semble s'ouvrir en tout cas. Et l'habitat inclusif, c'est clairement... Venez, vous allez pouvoir en parler. Vous. C'est clairement souvent une colocation, mais ça peut être un autre montage, pour quelques personnes rendues vulnérables par le handicap ou le grand âge. Il y a un autre groupe lauréat qui est dans la salle de l'HPA. Bonjour. Ça répond à votre question, hein. Alors, on a des petits flyers avec nous. Donc, sur les flyers, il y a notre adresse de contact, notre mail. On n'a pas encore de site internet. En fait, c'est beaucoup, beaucoup de travail, ce projet, hein, vous avez dû comprendre. Et on a du mal à être partout en même temps. On est encore en activité, enfin, ou presque. Donc, voilà, on n'a pas encore le site, mais il y a un contact. Et les prochaines réunions, ben, en fait, l'idée, c'est pour les personnes intéressées, on a aussi là un tableau que vous pourrez remplir en mettant votre adresse mail, vos coordonnées. On vous enverra le texte fondateur, quelques liens vidéo, enfin, tout ce qui peut vous intéresser. Et si ça continue à vous intéresser, eh bien revenez vers nous et on vous dira quand est-ce qu'ont lieu nos prochaines réunions de travail auxquelles vous pourrez participer. Alors, sans forcément être partie prenante sur les, s'il y avait des grandes décisions à prendre, plus en observateur, mais voilà, ça fait partie de notre processus d'inclusion des nouvelles personnes. Et au bout de 2 ou 3 réunions, ben, si vous avez envie d'aller plus loin, et nous aussi avec vous, eh ben, banco. Donc voilà. Et
pour compléter la réponse de Anne, je vais essayer de, peut-être dans le premier trimestre, en tout cas j'aimerais bien que ça soit rapidement, de créer un site, je ne sais pas encore sous quelle forme, pour qu'on puisse avoir une newsletter peut-être trimestrielle au début, pour tenir informées des personnes qui ne sont pas directement des futurs habitants, mais qui veulent rester connectés avec le projet. Voilà.
Bonjour. Alors, j'ai fait connaissance avec ce projet il y a quelques temps et je trouve que c'est un des plus généreux que j'ai pu connaître, des plus ambitieux aussi. Et pourtant, ça paraît tellement évident de s'occuper ainsi de nos aînés. Donc, je voulais vraiment porter ce témoignage, même si j'ai pas toujours le temps suffisant pour accompagner. Mais je reste très, très intéressée et je propose que l'ensemble de ceux qui portent des projets d'habitat partagé dans ce sens puissent venir les présenter et échanger dans le cadre de témoignages partagés au prochain Dialogues en Humanité dans le parc de la Tête d'Or et dans le Vieux-Lyon, 5, 6 et 7 juillet prochain. Je pense que ça a vraiment tout à fait l'essence même de ces échanges et du fait que nous avons tous des témoignages de vie, des expériences et du vécu en la matière. Et peut-être là, petit bout par petit bout, d'arriver à faire des projets qui ensuite donnent des idées aux autres. Et que ces expériences essaiment, s'inspirent aussi d'autres, parce que je crois que ce n'est pas qu'en France que ces questions sont posées, ailleurs aussi. J'étais par exemple en Éthiopie il y a quelques temps, et on sait toujours qu'en Afrique, on prend soin des aînés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes très âgées dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'il y a des générations entières qui ont été décimées par les guerres. Et que j'ai pu visiter justement une autre infirmière qui a ouvert un lieu d'accueil pour ces personnes qui étaient dans la rue âgées et dépendantes. Et voilà, c'était un moment très, très émouvant de voir ce qu'il est possible de faire dans la générosité, dans l'accueil et le partage. Voilà.
Est-ce que je peux me permettre de donner une information ? Je vous rappelle qu'il y a par exemple une association, ils sont peut-être présents dans la salle, d'ailleurs il s'agit de Chamarelle, qui a mené un projet, ça fait une dizaine d'années, mais qui a abouti. C'était un projet de construction d'un immeuble destiné à des personnes vieillissantes. Le projet est ouvert, ils habitent dans l'immeuble qu'ils ont conçu, et particulièrement bien conçu, à Vaux-en-Velin. Et maintenant, alors évidemment, ils ont maintenant une liste d'attente interminable pour pouvoir rentrer. Il y a des tas de gens qui ont envie de rentrer dans ce lieu. Mais par contre, ils donnent des conseils sur les modes de financement, les montages juridiques, et ils sont présents sur le stand de Abicop. Hein, voilà, à propos de partage de Abicop, ils sont à côté de Habitat et Partage.
Merci. Excusez-moi. Daniel, pour cette information. Merci Geneviève pour ton témoignage qui nous touche. On va peut-être répondre. On a eu pas mal de questions là, du coup, sur les papiers. J'en prends une qui va dans le sens de ce que vous disiez. Enfin, ce que tu disais, Geneviève, toi aussi, Daniel. Au vu du vieillissement de la population, comment multiplier ces projets ? Ne doivent-ils pas bénéficier de soutien extérieur ? Nous, à notre humble mesure, on va déjà faire notre projet, on va essayer de le faire, mais c'est vrai que l'idée, c'est d'être aussi, de devenir après centre ressources pour pouvoir aider d'autres projets à voir le jour, parce que chaque projet est unique, le nôtre est le nôtre, et d'autres seront d'autres, mais avec cette spécificité-là, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas ce que... On peut entendre plusieurs choses par soutien extérieur. En tout cas, nous, dans le cadre de l'appel à projet L'AJPA, avec Famille Solidaire, on est en partenariat avec... Famille Solidaire est en partenariat avec AG2R, donc c'est quand même un sacré soutien extérieur. Je pense que c'est beaucoup en lien avec la façon, justement, dont le regard sur ces choses-là, enfin, sur dépendance, vieillesse, fin de vie, va changer. Et si on voit les choses autrement, je pense que le soutien des pouvoirs publics, des collectivités, va changer aussi et va comprendre que il y a d'autres choses à inventer. Voilà. Et c'est pas contre ce qui existe déjà, hein. C'est plutôt en complémentarité. Et voilà. Donc voilà pour cette question. Oui. Alors on va passer d'un sujet à l'autre.
Alors il y a une question sur. Le modèle juridique et financier, faut-il arriver avec du capital pour acheter ou est-il possible de louer ? Donc, on a évoqué tout à l'heure le fait que ben, le sujet et la réalisation du montage juridique et financier est en cours de réflexion. Donc, c'est l'un des travaux qu'on a à faire lors de notre prochain week-end de travail. Donc, aujourd'hui, dans le groupe, il y a un petit peu des personnes qui voudraient louer ou qui voudraient être propriétaires. Donc, du coup, on va discuter de tout ça pour voir comment aller les uns vers les autres, comment trouver une position commune. Donc, tout reste à faire. Donc, n'hésitez pas à venir avec vos besoins et vos capacités pour qu'on puisse y réfléchir ensemble. Après, cela peut-il être une grande bâtisse ou plusieurs logements indépendants ? Pour l'instant, comme on a dit tout à l'heure, on reste ouvert, en fait. C'est sûr que s'il y a de la réhabilitation, il faut que la réhabilitation nous permette de créer les caractéristiques de logement pour les personnes dépendantes. Donc, bon, à voir. Après, peut-être créer du logement neuf ou au moins une partie du logement neuf pour être plus facile. Mais ça reste une question ouverte. On a un architecte qui échange avec nous pour l'instant pour qu'on puisse avoir quelques réponses quand on voit des lieux. Voilà.
Maintenant, on a une question sur l'environnement. Alors, jardin, potager. Donc, je pense que la question, c'est ça, c'est savoir s'il y aura un jardin potager. En fait, oui, ça c'est sûr. On a même, je pense qu'on aurait envie que chacun puisse avoir son espace s'il le souhaite, parce que moi personnellement j'aimerais bien avoir mon propre espace de jardin, mais aussi une partie collective avec la dimension de permaculture et peut-être aussi l'accueil d'un maraîcher sur le lieu en tant que maraîcher qui aurait son activité sur le lieu. Donc ça, c'est sûr que cette dimension-là, elle est importante, parce que on a vraiment envie d'être connecté avec l'environnement naturel. La deuxième question je ne sais pas si c'est une question où c'est marqué date, début, fin de projet. Alors là, un projet, c'est très difficile de donner. D'abord, il n'y a pas de fin, parce que il y a une phase projet, donc de construction du lieu, et puis après il y a la vie sur le lieu qui fait aussi partie du projet. Donc j'ai envie de dire que la fin, il n'y en a pas. Mais si ça concerne la partie construction, c'est très difficile de répondre aujourd'hui, on n'a pas encore le lieu. Donc une fois qu'on aura trouvé le lieu, il faudra compter minimum, je pense, 2 à 3 ans pour le dépôt du permis de construire, la construction des bâtiments et rentrer dans les lieux. Ça me semble une échéance à peu près jouable. Si ça peut être plus vite, c'est plus vite, mais si on ne peut pas dire aujourd'hui combien de temps ça va prendre.
Il y a des questions là très très importantes concernant la spécificité du projet. Alors une, recrutement des personnes âgées, comment faire changer de lieu de vie une personne âgée qui refuse souvent de quitter son habitat ? Alors j'ai envie de dire très spontanément, si elle refuse de quitter son habitat, c'est qu'elle n'est pas prête pour venir vivre dans un autre habitat, tout simplement. C'est difficile... Je pense qu'il y en a qui pourraient témoigner de quand on a, je sais pas, 75, 80, 85 ans, qu'on a vécu longtemps dans un lieu, qu'on a des repères dans un lieu, de se dire qu'on va déménager, hein, Claire, qu'on va déménager, qu'on va faire ses cartons, qu'on va aller dans un autre lieu qu'on connaît pas encore. Voilà. Je pense que quand on aura le lieu, que ce sera très concret, voilà, c'est différent. Mais une personne qui a pas envie, ben, elle a pas envie, quoi. Alors là, pour le coup, justement, on va pas recruter, je mets recruter entre guillemets, bien évidemment, viendront des personnes qui auront vraiment fait ce choix de vivre dans un habitat groupé pour voilà, dernière, voilà. Et puis, c'est vrai qu'avec cette notion de passerelle, c'est peut-être faire comprendre aussi à la personne âgée qu'elle ne va plus être isolée à son domicile, mais qu'il va y avoir des liens avec des personnes autour d'elle, bienveillantes. Alors certes que pour la plupart, peut-être, elle ne connaîtra pas, mais qu'elle apprendra à connaître. Donc c'est peut-être présenter ce qu'il va y avoir en plus plutôt que ce qu'il va y avoir en moins. C'est de la même façon quand on accompagne, par exemple, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on n'arrête pas de dire « Ah oui, mais elle ne peut plus faire ça, on ne peut plus parler avec elle, elle ne peut plus tenir une conversation, elle ne trouve plus les mots, etc. » Et pourquoi on ne pourrait pas dire « Mais elle se réjouit encore quand j'arrive et quand on va se balader, elle découvre le lieu à chaque fois en disant « Oh, c'est super, on est déjà venu, c'est magnifique, ben oui, on est venu hier, mais voilà. » Pourquoi on ne s'appuie pas sur les capacités restantes de la personne et qu'on ne présente pas en plus plutôt qu'en moins? Voilà, pour cette question, il y a aussi...
Je veux bien juste ajouter sur cette question, en fait, que moi, je vois aussi ce projet avec une portée très lointaine, c'est-à-dire que moi, j'intègre ce projet peut-être pour le jour où moi aussi, quand j'aurai je sais pas quel âge et que je deviendrai dépendante, ben, puisque j'ai vécu dans ce lieu-là, et ben ma dépendance, elle sera plus facile. Puisque je serai dans un lieu qui me permettra de rester là. Donc j'aurai pas besoin justement de quitter mon lieu. Donc je trouve que c'est ça aussi la réflexion, c'est on le crée aujourd'hui, donc elle ouvre une place pour des personnes qui sont déjà aujourd'hui dépendantes. Mais la philosophie, c'est aussi de se dire que si on en crée plein, comme ça a été évoqué par vos questions, si on en crée plein partout en France et dans le monde, des lieux comme ça, ça veut dire que tout un chacun pourra rester dans son lieu au moment où il deviendra dépendant. Et c'est ça vraiment que je trouve chouette.
Oui, ça c'est... Merci Carole, parce que c'est vrai que c'est super important. Les gens parfois nous disent « Ah, c'est super, quand je serai vieille, je viendrai. » Mais non, c'est pas ça l'idée, justement. C'est pas de venir au dernier moment résigner quand plus rien d'autre n'est possible. Parce que là, forcément, ça va pas le faire, quoi. Carole parlait du monde entier. Avez-vous visité des projets similaires dans d'autres pays? Alors, personnellement, je ne les ai pas visités. Nous ne les avons pas visités. Mais oui, il en existe. Les Allemands sont beaucoup plus en avance que nous. D'ailleurs, moi, j'ai été, je pense, très inspirée par un projet allemand. Enfin, pas un projet, parce que ça existe, la Villa Marie-Lys à Bonn, si certains connaissent. Voilà, en Belgique, il y a le mode aussi du béguinage, il y a la Suède, il y a des choses qui se font... on va dire similaire, parce que les projets sont toujours différents, mais les pays limitrophes, les pays étrangers sont plus en avance que nous sur cette question. Comment intégrer la formation pour apporter le savoir-être auprès des habitants dépendants pouvant souffrir de troubles comportementaux? Donc ça, c'est une grande question. On a le projet de créer un service d'aide à la personne sur le lieu. On a le projet aussi, pas nous tout seuls, mais avec d'autres, de former les personnes, les professionnels qui interviendront dans ce service d'aide à domicile à destination des 4 ou 5 personnes dépendantes de notre habitat inclusif, mais aussi à destination, bien évidemment, des communes, des voisines, dans un esprit de permaculture, c'est-à-dire d'être en interaction les uns avec les autres. La formation, le savoir-être dont vous parlez et qui est si essentiel à l'accompagnement sera vraiment au centre, en fait, des formations pour ces professionnels et pour qu'ils puissent le transcrire au quotidien dans leur pratique professionnelle.
Oui, alors il y a une question sur je vous la lis. L'installation en milieu rural ne pose-t-elle pas la difficulté des transports pour que la personne âgée garde des activités ? Marché, courses, loisirs. Donc c'est effectivement dans la recherche, dans les critères de recherche de notre lieu, on essaye de trouver une commune rurale, mais bien connectée à un réseau de transport pour pouvoir avoir un accès facile à tous les services. Donc, alors soit les services sont déjà dans la commune, ça c'est le mieux, et pour les services qui ne sont pas disponibles sur la commune, qu'on puisse avoir une facilité de transport vers une petite ville voisine qui les offre. Et, également, il faut bien penser que sur un lieu comme ça, puisqu'on sera dans un lieu participatif, on va faire appel aussi à la, comment on appelle ça, je trouve pas le mot, au collectif, c'est-à-dire que des gens du collectif qui sont sur le lieu peuvent participer et avoir cette entraide entre les différents habitants du lieu pour le transport. Donc une personne âgée dans un lieu comme ça ne sera pas isolée, elle sera incluse dans cet habitat partagé et pourra bénéficier de l'entraide du voisinage bienveillant qui est autour.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions au micro peut-être ? Oui.
C'est peut-être tout à fait inutile ce que je vais dire, mais il faut penser à un médecin. Or, il y a de moins en moins de médecins.
Oui, c'est vrai. On en a parlé ce matin en faisant la queue là pour aller manger. C'est vrai que dans nos critères, le lieu, enfin le village ou la petite ville qui se rapproche du lieu qu'on va acquérir, il faut qu'on se renseigne avant pour savoir quels sont les professionnels libéraux qui exercent à cet endroit. Et voilà, tout à fait. Ouais.
Je continue, mais je change de sujet. J'ai été interpellée tout à l'heure pour se demander si, enfin, comment on peut se décider quand on a mon âge. Et évidemment, il faut que le projet soit un peu plus abouti, je pense, a priori. Hein? C'est difficile de se décider comme ça.
Oui, je comprends. En fait, je pense que c'est une histoire de lieu. Quand on aura identifié le lieu, ça permet de se projeter. On est tous pareils. Quand je devais quitter Besançon pour arriver à Lyon, j'avais l'image d'une ville. En fait, c'était la ville que je traversais quand j'allais en vacances avec des échangeurs partout. Je me disais, mais comment les gens ils peuvent dire que Lyon, c'est sympa? Moi, je vois pas ce qui est sympa, quoi. Et puis, on a trouvé l'appartement, puis j'ai découvert Lyon et je suis tombée amoureuse de Lyon, en fait. Et c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une fois qu'il y a un lieu, une fois qu'on peut se projeter, alors on peut projeter sa vie, on construit déjà ses repères et c'est très important. Donc, je comprends que ça puisse être encore un frein. C'est le dernier frein pour nous, parce que là, je pense qu'on est vraiment à un moment où si on trouve le lieu, ça peut partir très, très vite. On a maintenant le collectif de futurs habitants. On est accompagnés. Donc, ouais. On a 9 personnes, là, fin mars, 7 foyers, dont 2 couples de futurs habitants. Hein.
J'aimerais ajouter quelque chose à la réponse de Anne, c'est que ça peut sembler long au départ, mais on a privilégié la constitution d'un collectif qui partage des valeurs communes et on apprend à se connaître. Et pour nous, c'est fondamental. On a visité des habitats partagés où les personnes ont été très vite sur la construction et finalement, ils ont négligé le relationnel et maintenant, ils ont un lieu. Et en fait, ils ne s'entendent pas. Donc, des fois, ça peut sembler qu'on ne va pas très vite. Mais moi, je pense que les fondations, c'est-à-dire les relations entre les gens, sont plus importantes que le bâtiment qu'on va construire. Bien sûr, il faut avancer sur les deux plans.
Oui, c'est super important ce qu'il dit à ce moment-là, Jean-Philippe. C'est vrai que Moi, j'avais envie de dire, je demandais à Anne, est-ce que je peux dire ça dans l'oreille ? J'avais envie de dire, en fait, oui, c'est sûr, pour se décider, il faut du concret. Ça, c'est sûr. Même pour les gens qui sont aujourd'hui les foyers qui ont envie d'habiter, qui ont envie d'être les futurs habitants, bah, de toute manière, c'est quand il y aura le lieu concret, le montage juridique et financier validé, qu'ils se diront, OK, on y va, et ça y est, on fait un acte fondateur. Mais ce que je trouve important, c'est de construire le projet ensemble. Alors j'ai envie de dire aux personnes ici présentes, n'hésitez pas à venir passer du temps avec le groupe Notre Beau Projet, et puis à le construire avec nous. Et puis après, en avançant, ben, y a chaque petite décision et chaque détail qui se décide du projet ensemble, on le décide ensemble, qui fera qu'on se sentira prêt à un moment donné à se dire, bah allez, c'est bon, ça se valide dans le sens qui m'est personnel, donc je peux continuer dans cette direction. Mais ce que vient de dire Jean-Philippe est vraiment chouette.
On a encore un tout petit peu de temps, je crois. Si vous voulez, s'il y a encore...
Oui.
D'accord. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez un nombre limite de personnes à accueillir, ou seules ou en couple, ou... Comment vous voyez ça, peut-être aussi par rapport aux futurs locaux ?
Alors, on est parti sur 12 à 15 foyers pour l'habitat participatif, plus 4 ou 5 personnes âgées dépendantes. Donc, il y a de la marge. On est que 7 foyers pour l'instant.
Merci.
Peut-être qu'il y a encore d'autres questions, on peut y répondre. Je voulais juste vous dire, on a mis là...
Il y a une petite table à la sortie, ça sera peut-être plus pratique.
Ah ben voilà. À la sortie, on va mettre ça. Si vous voulez recevoir le texte fondateur de notre projet, quelques liens vidéo, et puis éventuellement nous rencontrer. Enfin, je ne sais plus ce qui est écrit sur la feuille. Voilà, vous pouvez remplir cette feuille. On va mettre aussi les flyers avec le contact à la fin. Et on est présent sur le stand de Habitat et Partage jusqu'à ce soir.
Oui. Autre chose là, il me semble que si ça existe en Allemagne, dans d'autres endroits comme, je sais pas, l'Italie, la Suisse ou l'Espagne, pourquoi on ferait pas un petit voyage pour aller voir et visiter, prendre contact avec les gens et revenir et en tirer des conclusions, quoi. Claire, analyse.
Claire, je pense que tu es mûre pour rejoindre notre groupe et nous donner des idées. C'est une excellente idée. Alors, d'autres l'ont fait avant nous. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir sur le site de Halage, HAL'A'GE, qui est une association qui se veut ressource pour des habitats participatifs incluant la dimension du vieillissement. C'est une association qui nous épaule aussi. On a participé avec eux aux rencontres nationales de l'habitat participatif. Et ils font des voyages d'études. Donc ils ont fait notamment un voyage d'études en Allemagne en 2015, je crois. Et c'est grâce à ce compte-rendu de leur voyage d'études en Allemagne que moi j'ai découvert qu'en Allemagne il existait des projets et que ça m'a donné des idées. Voilà, en même temps que j'ai rencontré Florence sur le salon ici. Donc effectivement, on peut aussi se dire, tiens, allez, on va à Bonn, ou à Bonn par exemple, on va en Belgique. Mais oui, c'est une excellente idée, bien sûr, si ça peut donner envie. Et ça soude le groupe, absolument, ouais. D'autres idées géniales comme ça à nous proposer.
Du coup, Daniel, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais peut-être on conclut. Mais en tout cas, moi, je voulais... remercier en fait parce qu'il y a eu plein de participants. Bon, il y en a un petit peu qui ont dû quitter la salle peut-être pour aller voir d'autres choses, mais ça faisait vraiment plaisir et chaud au cœur de voir plein de participants de tous âges. Et je voulais aussi remercier Daniel qui a facilité cette petite conférence. Pas toujours facile pour nous de présenter notre projet, mais c'est chouette ici comme cadre à Prime Vert. Et puis bah voilà, venez nous rencontrer, venez nous soutenir, participer. Et puis on sera ravis d'entendre vos envies, vos échos sur notre beau projet.